De l'ivrognerie. Chapitre 2. Le monde n'est que variété et dissemblance. Les vices sont tous pareils, en ce qu'ils sont tous vices, et de cette façon l'entendent à l'aventure les stoïciens, mais encore qu'ils soient également vices, ils ne sont pas égaux vices. Et que celui qui a franchi de 100 pas les limites, au-delà et en deçà desquelles ne peut se trouver le bien, ne soit de pire condition que celui qui n'en est qu'à 10 pas, il n'est pas croyable. Et que le sacrilège ne soit pire que le larcin d'un chou de notre jardin. Et la raison ne convaincra pas que la faute soit de même gravité et de même nature de celui qui piétine des choux encore tendres dans le jardin d'autrui et de celui qui dérobe de nuit les objets sacrés des dieux. Il y a autant en cela de diversité qu'en quelque autre chose. La confusion de l'ordre et mesure des péchés est dangereuse. Les meurtriers, les traîtres, les tyrans y ont trop d'acquet. Ce n'est pas raison que leur conscience se soulage sur ce que tel autre ou est oisif, ou est lascif, ou moins assidu à la dévotion. Chacun pèse sur le péché de son compagnon et élève le sien. Les instructeurs même les rangent souvent mal, à mon gré. Comme Socrate disait que le principal office de la sagesse était distinguer les biens et les maux, nous autres, à qui le meilleur est toujours en vice, devons dire de même de la science de distinguer les vices, sans laquelle, bien exact, le vertueux et le méchant demeurent mêlés et inconnus. Or l'ivrognerie, entre les autres, me semble un vice grossier et brutal. L'esprit a plus de part ailleurs, et il y a des vices qui ont je ne sais quoi de généreux, s'il le faut ainsi dire. Il y en a où la science se mêle, la diligence, la vaillance, la prudence, l'adresse et la finesse, ce tuissi est tout corporel et terrestre. Aussi, la plus grossière nation de celles qui sont aujourd'hui, c'est celle-là seule qui le tient en crédit. Les autres vices altèrent l'entendement. Ce tuissi le renverse et étonne le corps. Quand la force du vin l'a pénétré, il s'ensuit une lourdeur des membres, les jambes sont embarrassées et chancelantes, la langue s'engourdit, l'intelligence est noyée, le regard flottant, les cris, les hoquets, les querelles vont croissant. Le pire état de l'homme, c'est où il perd la connaissance et gouvernement de soi. Et en dit-on, entre autres choses, que comme le moût bouillant dans une cuve pousse à mont tout ce qu'il y a dans le fond, aussi le vin fait débonder les plus intimes secrets à ceux qui en ont pris outre mesure. C'est toi qui dévoiles les soucis des sages et le secret des pensées dans les ébats de Bacchus. Joseph récite qu'il tira le verre du nez à un certain ambassadeur que les ennemis lui avaient envoyé, l'ayant fait boire d'autant. Toutefois, Auguste s'étant fié à Lucius Pison, quiconque il a trace, des plus privées affaires qu'il eut, ne s'en trouva jamais mécompté. Ni Tibère de Cossus, à qui il se déchargeait de tous ses conseils, quoique nous les sachions avoir été si fort sujets au vin qu'il en a fallu rapporter souvent du Sénat, et l'un et l'autre ivres. Les veines enflées, comme de coutume, du vin de la veille. Et commit-on aussi fidèlement qu'à Cassius, buveur d'eau, à Saint-Bert, le dessein de tuer César, quoiqu'il s'enivrât souvent, d'où il répondit plaisamment « Que je supportasse un tyran, moi qui ne puis supporter le vin. » Nous voyons nos Allemands, noyés dans le vin, se souvenir de leur quartier, du mot du guet et de leur rang. Et il n'est pas facile de l'emporter sur des gens ivres, bégayant et titubant sous l'effet du vin. Je n'eusse pas cru d'ivresse si profonde, étouffée et ensevelie, si je n'eusse lu ceci dans les histoires. Catal, ayant convié à souper, pour lui faire une notable indignité, ce Posanias, qui sur ce même sujet tua depuis Philippe, roi de Macédoine, roi portant par ses belles qualités témoignage de l'éducation qu'il avait prise en la maison et compagnie d'Épaminondas, il le fit tant boire qu'il put abandonner sa beauté, insensiblement, comme le corps d'une putain buissonnière, aux muletiers et nombre d'abjects serviteurs de sa maison. Et ce que m'apprit une dame, que j'honore et prise fort, que près de Bordeaux, vers Castres où est sa maison, une femme de village, veuve, de chaste réputation, sentant des premiers ombrages de grossesse, disait à ses voisines qu'elle penserait être enceinte si elle avait un mari. Mais du jour à la journée, croissant l'occasion de ce soupçon, et enfin jusqu'à l'évidence, elle en vint là de faire déclarer au prône de son église que, qui reconnaîtrait ce fait en l'avouant, elle promettait de le lui pardonner, et s'il le trouvait bon, de l'épouser. Ainsi un jeune valet de labourage, enhardi de cette proclamation, déclara l'avoir trouvé un jour de fête, ayant bien largement pris son vin, endormi en son foyer si profondément et si indécemment qu'il s'en put servir sans l'éveiller. Ils vivent encore mariés ensemble. Il est certain que l'Antiquité n'a pas fort décrié ce vice. Les écrits même de plusieurs philosophes en parlent bien mollement. Et jusqu'aux stoïciens, il y en a qui conseillent de s'accorder quelquefois à boire d'autant et de s'enivrer pour relâcher l'âme. Dans cet assaut de vertu, aussi le grand Socrate remporta jadis la palme à ce qu'on dit. Ce censeur et correcteur des autres, Caton, a été reproché de bien boire. On raconte que Caton l'Ancien, lui aussi, réchauffait souvent dans le vin sa vertu. Cyrus, roi tant renommé, allègue entre ses autres louanges, pour se préférer à son frère Artaxerxès, qu'il savait beaucoup mieux boire que lui. Et est-ce nation, les mieux réglés et polissés, cet essai de boire d'autant était fort en usage. J'ai ouï dire à Silvius, excellent médecin de Paris, que pour garder que les forces de notre estomac ne paraissent, il est bon, une fois le mois, les éveiller par cet excès et les piquer pour les garder de s'engourdir. Et écrit-on que les Perses, après le vin, consultaient de leurs principales affaires. Mon goût et ma complexion sont plus ennemis de ce vice que mon discours, car, outre ce que je captive aisément mes croyances sous l'autorité des opinions anciennes, je le trouve bien un vice lâche et stupide, mais moins malicieux et dommageable que les autres, qui choquent quasi tous de plus droit fil la société publique. Et si nous ne nous pouvons donner du plaisir qu'il ne nous coûte quelque chose, comme ils tiennent, je trouve que ce vice coûte moins à notre conscience que les autres. Outre ce qu'il n'est point de difficile après, ni malaisé à trouver, considération non méprisable. Un homme, avancé en dignité et en âge, entre trois principales commodités qu'il me disait lui rester en la vie, comptait cette-ci. Et où les veut-on trouver plus justement qu'entre les naturels? Mais il la prenait mal. La délicatesse y est à fuir, et le soigneux triage du vin. Si vous fondez votre volupté à le boire friand, vous vous obligez à la douleur de le boire autre. Il faut avoir le goût plus lâche et plus libre. Pour être un bon buveur, il ne faut le palais si tendre. Les Allemands boivent quasi également de tout vin avec plaisir. Leur fin, c'est l'avaler plus que le goûter. Ils en ont bien meilleur marché. Leur volupté est bien plus plantureuse et plus en main. Secondement, boire à la française, à deux repas et modérément, c'est trop restreindre les faveurs de ce Dieu. Il y faut plus de temps et de constance. Les anciens franchissaient des nuits entières à cet exercice et y attachaient souvent les jours. Et ainsi, il faut dresser son ordinaire plus large et plus ferme. J'ai vu un grand seigneur de mon temps, personnage de hautes entreprises et fameux succès, qui, sans effort et au train de ses repas communs, ne buvait guère moins de 5 lots de vin et ne se montrait, au partir de là, que trop sage et avisé aux dépens de nos affaires. Le plaisir, duquel nous voulons tenir compte au cours de notre vie, doit en employer plus d'espace. Il faudrait, comme des garçons de boutique et gens de travail, ne refuser nulle occasion de boire et avoir ce désir toujours en tête. Il semble que tous les jours nous raccourcissons l'usage de ce tuissi et qu'en nos maisons, comme j'ai vu en mon enfance, les déjeuners, les goûters et les collations fussent plus fréquentes et ordinaires qu'à présent. Serait-ce qu'en quelque chose nous allassions vers l'amendement? Vraiment, non. Mais ce peut être que nous nous sommes beaucoup plus jetés à la paillardise que nos pères. Ce sont deux occupations qui s'entrempêchent en leur vigueur. Elle a affaibli notre estomac, d'une part, et d'autre part, la sobriété sert à nous rendre plus gracieux, plus damerets pour l'exercice de l'amour. Ces merveilles des contes que j'ai ouï faire à mon père de la chasteté de son siècle. C'était à lui d'en dire, étant très avenant et par art et par nature à l'usage des dames. Il parlait peu et bien, et aussi mêlait son langage de quelque ornement des livres vulgaires, surtout espagnols, et entre les espagnols, lui était ordinaire celui qu'il nomme Marc Aurèle. Le port, il l'avait d'une gravité douce, humble et très modeste, singulier soin de l'honnêteté et décence de sa personne et de ses habits, soit à pied, soit à cheval, monstrueuse foi en ses paroles, et une conscience et religion en général penchant plutôt vers la superstition que vers l'autre bout. Pour un homme de petite taille, plein de vigueur et d'une stature droite et bien proportionnée, d'un visage agréable tirant sur le brun, adroit et exquis en tout nobles exercices. J'ai vu encore des cannes farcies de plomb, desquelles on dit qu'il s'exerçait les bras pour se préparer à ruer la barre ou la pierre ou à l'escrime, et des souliers aux semelles plombées, pour s'alléger au courir et à sauter. Du Primesault, il a laissé en mémoire des petits miracles. Je l'ai vu par-delà 60 ans se moquer de nos allégresses, se jeter avec sa robe fourrée sur un cheval, faire le tour de la table sur son pouce, ne monter guère en sa chambre sans s'élancer 3 ou 4 degrés à la fois. Sur mon propos, il disait qu'en toute une province, à peine y avait-il une femme de qualité qui fût mal nommée, récitait des étranges privautés, nommément siennes, avec des honnêtes femmes, sans soupçon quelconque. Et de soi, jurait saintement être venue vierge à son mariage, et pourtant c'était après avoir eu longue part aux guerres de l'Alémont, desquelles il nous a laissé un papier journal de sa main, suivant point par point ce qui s'y passa, et pour le public et pour son privé. Aussi se maria-t-il bien avant en âge, l'an 1528, qui était son 33e, sur le chemin de son retour d'Italie. Revenons à nos bouteilles. Les incommodités de la vieillesse, qui ont besoin de quelque appui et rafraîchissement, pourraient m'engendrer avec raison désir de cette faculté, car c'est quasi le dernier plaisir que le cours des ans nous dérobe. La chaleur naturelle, disent les bons compagnons, se prend premièrement aux pieds, celle-là touche l'enfance. De là, elle monte à la moyenne région, où elle se plante longtemps, et y produit, selon moi, les seuls vrais plaisirs de la vie corporelle. Les autres voluptés dorment au prix. Sur la fin, à la mode d'une vapeur qui va montant et s'exhalant, elle arrive au gosier, où elle fait sa dernière pause. Je ne puis pourtant entendre comment on vienne à allonger le plaisir de boire outre la soif, et se forger en l'imagination un appétit artificiel et contre nature. Mon estomac n'irait pas jusque-là. Il est assez empêché à venir à bout de ce qu'il prend pour son besoin. Ma constitution est ne faire cas du boire que pour la suite du manger, et boit à cette cause le dernier coup toujours le plus grand. Et parce qu'en la vieillesse nous apportons le palais encrassé de rhume ou altéré par quelque autre mauvaise constitution, le vin nous semble meilleur, à même que nous en avons ouvert et lavé nos pores. Au moins, il ne m'advient guère que pour la première fois j'en prenne bien le goût. Anacharsis s'étonnait que les Grecs bussent sur la fin du repas en plus grand verre qu'au commencement. C'était, comme je pense, pour la même raison que les Allemands le font, qui commencent lors le combat à boire d'autant. Platon défend aux enfants de boire 20 avant 18 ans et avant 40 de s'enivrer. Mais à ceux qui ont passé les 40, il pardonne de s'y plaire et de mêler un peu largement en leur banquet l'influence de Dionysos. Ce bon dieu qui redonne aux hommes la gaieté et la jeunesse aux vieillards, qui adoucit et amollit les passions de l'âme, comme le fer s'amollit par le feu, et en ses lois trouve telles assemblées à boire, pourvu qu'il y ait un chef de bande, à les contenir et régler, utile, l'ivresse étant une bonne épreuve, et certaine de la nature d'un chacun, et en même temps propre à donner aux personnes d'âge le courage de s'ébaudir en danse et en la musique, chose utile, et qu'il n'ose entreprendre, en sens rassis, que le vin est capable de fournir à l'âme de la tempérance, au corps de la santé. Toutefois, ces restrictions, en partie empruntées des Carthaginois, lui plaisent. Qu'on s'en épargne en expédition de guerre, que tout magistrat et tout juge s'en abstienne sur le point d'exécuter sa charge et de consulter des affaires publiques, qu'on y emploie le jour, tant dû à d'autres occupations, ni la nuit qu'on destine à faire des enfants. Ils disent que le philosophe Stilpon, aggravé de vieillesse, hâta sa fin à Escient par le breuvage de vin pur. Pareille cause, mais non du propre dessein, suffoqua aussi les forces abattues par l'âge du philosophe Arcésilas. Mais c'est une vieille et plaisante question, si l'âme du sage serait pour se rendre à la force du vin, s'il fait violence à une sagesse fortifiée. À combien de vanité nous pousse cette bonne opinion que nous avons de nous ? La plus réglée âme du monde et la plus parfaite n'a que trop à faire à se tenir en pied et à se garder de s'emporter par terre de sa propre faiblesse. De mille, il n'en est pas une qui soit droite et rassise un instant de sa vie, et se pourrait mettre en doute si, selon sa naturelle condition, elle y peut jamais être. Mais d'y joindre la constance, c'est sa dernière perfection. Je dis, quand rien ne la choquerait, ce que mille accidents peuvent faire. Lucrèce, ce grand poète, a beau philosopher et se bander, le voilà rendu insensé par un breuvage amoureux. Pense-t-il qu'une apoplexie n'étourdisse aussi bien Socrate qu'un portefaix ? Les uns ont oublié leur nom même par la force d'une maladie, et une légère blessure a renversé le jugement à d'autres. Tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme. Qu'est-il plus caduque, plus misérable et plus de néant ? La sagesse ne force pas nos conditions naturelles. C'est pourquoi nous voyons les suées et la pâleur se répandre sur tout le corps, la langue se rompre, la voix s'éteindre, la vue s'obscurcir, les oreilles teintées, les membres défaillir, enfin l'homme succomber à cette terreur de l'esprit. Il faut qu'il scie les yeux au coup qui le menace. Il faut qu'il frémisse, planté au bord d'un précipice, comme un enfant. Nature ayant voulu se réserver ces légères marques de son autorité, inexpugnables à notre raison et à la vertu stoïque, pour lui apprendre sa mortalité et notre fadaise. Il pâlit à la peur, il rougit à la honte, il gémit à la colique, sinon d'une voix désespérée et éclatante, au moins d'une voix cassée et enrouée. Qu'il pense que rien d'humain ne lui est étranger. Les poètes qui feignent tout à leur guise n'osent pas décharger seulement des larmes leurs héros. Ainsi parle-t-il tout en larmes et il fait hisser les voiles à sa flotte. Lui suffisent de brider et modérer ses inclinations, car de les emporter, il n'est pas en lui. Ce lui-même, notre Plutarque, si parfait et excellent juge des actions humaines, à voir Brutus et Torquatus tuer leurs enfants, est entré en doute si la vertu pouvait donner jusque-là et si ces personnages n'avaient pas été plutôt agités par quelque autre passion. Toute action hors les bornes ordinaires sont sujettes à sinistre interprétation, d'autant que notre goût n'advient non plus à ce qui est au-dessus de lui qu'à ce qui est au-dessous. Laissons cette autre secte, faisant express profession de fierté. Mais quand, en la secte même estimée la plus molle, nous oyons ces ventances de Métrodore, je t'ai devancé, fortune, et t'ai surprise, j'ai fermé toutes tes voies d'accès, en sorte que tu ne saurais approcher de moi. Quand Anaxarque, par l'ordonnance de Nicocréon, tyran de Chypre, couché dans une cuve de pierre et assommé à coups de maillet de fer, ne cesse de dire « Frappez, rompez, ce n'est pas Anaxarque, c'est son étui que vous pilez !» Quand nous oyons nos martyrs crier au tyran au milieu de la flamme « C'est assez rôti de ce côté-là, hache-le, mange-le, il est cuit, recommence de l'autre !» Quand nous oyons en Joseph cet enfant tout déchiré de tenailles mordantes et percé des haleines d'Antiochos, le défier encore, criant d'une voix ferme et assurée « Tyran, tu perds tant, me voici toujours à mon aise. Où est cette douleur ? Où sont ces tourments de quoi tu me menaçais ? N'y sais-tu que ceci ? Ma constance te donne plus de peine que je n'en sens de ta cruauté. Ô lâche bélitre, tu te rends, et je me renforce. Fais-moi plaindre, fais-moi fléchir, fais-moi rendre si tu peux. Donne courage à tes satellites et à tes bourreaux. Les voilà défaillis de cœur, ils n'en peuvent plus. Arme-les, acharne-les. » Certes, il faut confesser qu'en ces âmes-là, il y a quelque altération et quelque fureur, tant sainte soit-elle. Quand nous arrivons à ces saillies stoïques, « J'aime mieux être furieux que voluptueux », mot d'Antisthène. Quand Sextus nous dit qu'il aime mieux être enferré de la douleur que de la volupté, quand Épicure entreprend de se faire mignarder à la goutte et refusant le repos et la santé, que de gaieté de cœur il défie les maux, et méprisant les douleurs moins âpres, dédaignant les luttées et les combattre, qu'il en appelle les désirs des fortes, aigus et dignes de lui. Il souhaite que parmi ce placide bétail lui soit donné un sanglier écumant ou qu'un lion fauve descende de la montagne. Qui ne juge que ce sont poussés d'un courage élancé hors de son gîte? Notre âme ne saurait de son siège atteindre si haut. Il faut qu'elle le quitte et s'élève, et prenant le frein aux dents, qu'elle emporte et ravisse son homme si loin qu'après il s'étonne lui-même de son fait. Comme aux exploits de la guerre, la chaleur du combat pousse les soldats généreux souvent à franchir des pas si hasardeux qu'étant revenus à eux, ils en transissent d'étonnement les premiers. Comme aussi les poètes sont épris souvent d'admiration de leurs propres ouvrages et ne reconnaissaient plus la trace par où ils ont passé une si belle carrière, c'est ce qu'on appelle aussi en eux ardeur et manie. Et comme Platon dit que pour néant heurte à la porte de la poésie un homme rassis, aussi dit Aristote qu'aucune âme excellente n'est exempte de mélange de folie et a raison d'appeler folie tout élancement, tant louable soit-il, qui surpasse notre propre jugement et discours, d'autant que la sagesse est un maniement réglé de notre âme et qu'elle conduit avec mesure et proportion et s'en répond. Platon argumente ainsi que la faculté de prophétiser est au-dessus de nous, qu'il faut être hors de nous quand nous la traitons. Il faut que notre prudence soit offusquée, ou par le sommeil, ou par quelque maladie, ou enlevée de sa place par un ravissement céleste.